derrière les barreaux. Le bonheur, ça fait pas de cadeau. Je vais compter les heures, les jours, les mois, et surtout les nuits passées dans le froid. Dessiner tes yeux en milliers d'exemplaires, mon amour, au fond de ma ratière. C'est l'amour qui vient quand le rêve est fini. Le malheur, ça n'a pas de prix. Si c'était la mort qui me voulait trop tôt, elle est bien pressée pour jouer de la faux, veut me faire payer mon amour indocile.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 sur la FM. Pour notre émission mensuelle, on a déjà traité le sujet, l'émission de l'atelier de Radio Ad-Hoc. Comme tous les premiers dimanches du mois, vous êtes habitués maintenant à 15h30. Vous pouvez aussi nous écouter sur le site de Radio Libertaire, c'est radio-libertaire.net. Je suis Samia et avec moi, Laura Farinck pour présenter cette émission. Bonjour Laura.
Bonjour.
À la technique, c'est Anne Galland avec Caroline Kim et Mélanie Trachler. Et donc, pour notre émission de rentrée, je crois que c'est la 18e, c'est ça, Laura? C'est la 18e?
La
20e. La 20e. Ok. Eh ben, dis donc, on a bien bossé. C'est la 20e émission. Nous avons choisi de nous intéresser à la thématique du monde ouvrier. Et nous avons choisi deux films documentaires. Les Hutchinson d'Emmanuel Bidou, qui est avec nous dans le studio. Bonjour, Emmanuel.
Bonjour.
Et puis, Des bobines et des hommes de Charlotte Pouche, qui est aussi là. Bonjour, Charlotte.
Bonjour, Samia. Bonjour, Laura.
Bonjour.
Alors, elles sont nos invitées, présentes avec nous tout au long de cette émission. Et donc, on a choisi leur film, on a choisi cette thématique. On s'est dit que le point commun des deux films est peut-être qu'ils donnent à voir et à comprendre le monde ouvrier dans ses luttes, sa solidarité, son humanité et son attachement infaillible à sa force de travail et son outil de travail. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le point de vue particulier, le regard propre à chacune des réalisatrices sur l'usine et ses ouvriers qui la font vivre. Alors, par exemple, vos choix de dispositifs, votre manière de faire, en tout cas, c'est ce qu'elles vont nous raconter tout au long de cette émission. Donc le film, dans un premier temps, le film d'Emmanuel Bidou qui s'intitule « Les Hutchinson », il a été réalisé en 2015. Il raconte comment, depuis le début du XXe siècle, des travailleurs venus du monde entier ont construit une ville autour de l'usine Hutchinson à Chalette-sur-Loing, dans le Loiret. Ces ouvriers, ils sont venus du Portugal, de la Turquie, d'Ukraine, d'Italie, d'Espagne, d'Arménie. Ils font le récit de leur parcours d'exilés et de leur histoire de vie, qui est étroitement liée à l'histoire d'une usine. Un lieu de travail, donc, mais aussi de souffrance, d'exploitation, de lutte, de bonheur et de solidarité. Alors justement, pour entamer notre discussion sur ces deux films, je vous propose d'écouter un extrait du film d'Emmanuel Bidou. Alors je vous dis simplement qu'à l'image, la réalisatrice est hors champ. On voit des ouvriers pénétrer dans l'usine par un tourniquet en métal, et puis un ouvrier interpelle la réalisatrice. Alors on écoute l'extrait et on en parle après.
Alors,
ça
doit pas plaire.
Ah ouais, c'est vrai. Non, parce qu'en plus, ils disent n'importe quoi des fois. Bonne journée. Merci.
Ah,
On vient d'écouter un extrait de ton film, Emmanuel, les Hutchinson. Bon, c'est un extrait assez court. Il me semble que c'est la deuxième séquence du film, je me trompe, ou ça arrive au début.
Oui, ça arrive au début, effectivement, après qu'on ait vu l'usine, l'extérieur de l'usine et les ouvriers rentrer.
Ouais.
Oui, on a gardé cette séquence parce qu'en fait, effectivement, ça a complètement chamboulé, on va dire, mon projet de film à la base, qui était donc je devais tourner à l'intérieur de l'usine Hutchinson. Enfin, c'était mon projet initial, et c'était ça qui m'intéressait, parce que c'est... bon, on ne va pas repartir dans toute l'histoire, mais c'est quand même une usine qui a été créée en 1853. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le début de la révolution industrielle en France, hein, alors qu'elle a déjà été très enclenchée en Angleterre. Et c'est une usine donc, qui tourne depuis 1853. Donc, c'est une usine très, très imposante, très belle, dont une partie a été construite par Eiffel, hein, par Gustave Eiffel. Et donc, alors je raconte très très vite comment je suis arrivée là-bas, parce que je ne suis pas arrivée comme ça totalement par hasard. C'est qu'en fait, j'avais une compagnie de théâtre de rue, on faisait de l'image dans un bus, et on a été invité à Chalette-sur-Loing pour faire le spectacle pendant une semaine. Et là, on arrive à ce festival qui s'appelle Ma ville est un monde, et on arrive là-bas, et on reste, dès le deuxième jour. On voit des Ukrainiens, des Russes faire les danses traditionnelles, des Portugais, des Italiens, des Arméniens, des Kalmouks, des Mongols. Tous ces gens mélangés, on reçoit des écoles avec des enfants qui sont d'origine très différente. Et donc, on est un peu intrigués. On se dit, mais où on a débarqué? Et à un moment, je dois aller chercher de la menthe pour faire du thé à la menthe. Et on me dit, va à Vézines, c'est le quartier ouvrier donc de Chalette-sur-Loing. Et donc, je pars à pied, et là, je passe devant cette énorme usine, dont je n'avais pas du tout pris connaissance. Je ne savais même pas qu'elle existait. On ne savait pas trop où on débarquait, en fait. Et voilà, donc, on a joué pendant une semaine, on a rencontré toutes les communautés, on a rencontré les enfants, etc. Puis, je suis rentrée à Paris, et puis, ça a émergé dans ma tête, et je me suis dit, il faut que je me renseigne sur cette énorme usine, où il y avait encore à peu près 2000 travailleurs. Et voilà, donc... Et donc, j'ai cherché une production. C'est Cécile Lestrade d'Alter Ego qui a pris le film parce qu'elle est de Orléans, donc c'est la région centre. Voilà, donc je trouvais ça intéressant de travailler avec une productrice de la région centre, puisque Chalette est dans la région centre, c'est dans le Loiret. Et j'ai commencé à écrire un film. Ce qui m'intéressait, c'est une usine de caoutchouc. Et donc, le caoutchouc, c'est une matière qui se travaille encore énormément à la main. Et donc quelque chose qui se malaxe, quelque chose qui vraiment on peut pas, il y a des machines, on peut pas travailler, on peut pas faire des pièces avec des machines. Il y a des pièces qui sont faites exclusivement à la main. C'est comme une grosse guimauve en fait qui sort, et après c'est coupé avec des ciseaux, des vieux ciseaux qu'on coupe pour après malaxer, que ce soit.
C'est pas totalement automatisé quoi.
C'est une matière assez difficile à travailler en fait avec des robots, etc. Et donc, donc j'ai commencé à écrire ce projet de film avec l'idée de rencontrer deux ou trois communautés, parce qu'en fait, c'est vraiment c'est aussi l'idée de cette ville-monde, et de les accompagner, d'aller avec eux dans l'usine, puisqu'en fait, certains, c'est toute la famille, c'est le mari, la femme, les enfants qui y travaillent, qui font les 3-8, etc. Voilà, donc...
D'emblée, tu t'es retrouvée face à cette contrainte.
Voilà, alors, l'usine appartient à Total depuis 1974. Ce qui a complètement changé, en fait, le paysage de l'usine. Avant, c'était assez familial, etc. Et Total a racheté l'usine en 1974. Et donc, voilà, d'emblée, on a été voir donc, le patron à Hutchinson, qui est rue Balzac, dans le 8e. Énorme bâtiment en marbre, impressionnant. Et on a rencontré un patron, on a rencontré le patron de l'usine Hutchinson, qui nous a dit « Oui, je pense que c'est possible, il n'y a pas de souci ». Et puis, après, on a été rencontrés ceux qui sont au-dessus, en fait. Pas spécialement Total, mais en tout cas, ceux qui sont au-dessus à Hutchinson. C'est-à-dire, il y a une hiérarchie qui monte très haut. Il y a un chef, un sous-chef, après, il y a le grand chef, etc. Et là, ça a commencé à coincer. Parce que quand ils m'ont demandé ce que je voulais vraiment y faire...
Oui, c'est ça, les intentions du film.
Je pense qu'ils se sont même renseignés sur mes films d'avant et d'où je venais. Je suis fille de communiste. Donc, ça a commencé j'avais fait une thèse sur la classe ouvrière en Afrique du Sud, etc., etc. Et donc, après, j'ai senti, en fait, qu'ils s'étaient quand même renseignés sur moi. Et là, ça a commencé à coincer. Ils m'ont dit, vous ne pourrez pas rentrer dans l'usine parce que finalement, ce savoir-faire des ouvriers les protéger. On ne peut pas montrer à l'extérieur ce qui s'y passe.
Ça, c'est l'argument un peu fastoche, quoi.
Oui, mais c'est, c'est vrai que...
Secret industriel, quoi.
Voilà, secret industriel. Etc., etc. Donc, on a essayé avec Cécile, on y est retourné plusieurs fois, on a rencontré. J'avais écrit le projet de film complètement en étant dans l'usine. Donc c'est vrai que ça a tout bouleversé. Et en fait, c'est vrai qu'au bout de 8 mois, on nous a dit non. Voilà. On nous a dit que le grand chef avait dit non. Et donc, il a fallu écrire de nouveau. Bon, ça a été un peu une frustration, j'avoue, pour moi.
C'est vrai que j'ai challenge aussi. Enfin, c'est un nouveau projet, même, finalement.
Oui, parce que l'usine à l'intérieur était vraiment aussi un personnage intéressant. Il y a encore toutes les vieilles machines, c'est énorme. C'est Eiffel qui a construit le bâtiment à la chaussure, où il y avait 4000 femmes qui travaillaient, à l'époque, plus à l'époque où j'ai tourné. Et voir ce caoutchouc couler, parce que c'est caoutchouc, ça veut dire le bois qui pleure en indien. Voilà. Donc, il y a vraiment cette. J'avais envie de faire cette sorte de métaphore, finalement, entre un peu la fin de la classe ouvrière et ce bois qui pleure finalement. Donc j'ai pas pu rentrer, voilà. Donc on a fait autrement. Voilà.
OK. Non mais c'est super intéressant, du coup, on va s'intéresser au film de Charlotte.
Oui, je vais présenter ton film assez succinctement, Charlotte. Donc Des bobines et des hommes, qui est sorti en 2017 et qui raconte l'histoire de l'usine textile Belmaille qui subit un redressement judiciaire. Et au rythme des machines, de la parole des employés, des réunions entre le patronat et le syndicat, tu suis l'histoire de cette entreprise jusqu'à son dénouement judiciaire. Ici, c'est la liquidation de l'entreprise. Et tu mets en scène, d'une part, ces employés qui sont extrêmement attachés à leur usine, et d'autre part, le directeur de l'entreprise, un personnage assez fort, haut en couleur, on va y revenir. Et qui lui aussi, au début du film, paraît tout à fait concerné par la situation critique de Belmaille. Et on va écouter tout de suite le premier extrait.
L'audience du tribunal de commerce a eu lieu à 9h30 ce matin, en présence de Nadine, en tant que représentante élue du personnel de l'entreprise. Cette audience a été prononcée envers Belmaille, un jugement de redressement judiciaire sur l'immédiateté. Nous continuons à faire ce que nous faisions hier, ce qu'on a fait ce matin, cet après-midi, demain, après-demain, etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Quel processus? Période d'observation. Dès la semaine prochaine, je pense. Maître Étienne Martin va publier une annonce dans les journaux d'annonces légales, dans les échos, peut-être ailleurs, de dire, il y a une entreprise allemande qui s'appelle Belmaille, trois mots de sa caractéristique. La plupart des gens recevront l'annonce qu'ils sont repris par telle entité juridique, qu'ils sont salariés avec continuité de leur contrat de travail, dès qu'il était au sein de telles sociétés, et d'autres, que j'espère le moins possible, ne recevront pas cette information-là, et recevront un élément de licenciement.
Du Pôle emploi.
Donc, dès le jugement, on saura qui est gardé, qui est licencié.
Mon boulot aussi, c'est de vous dire qu'il est essentiel de travailler pour la continuité de mon entreprise. Je reprends bien mes trois critères.
Oui, non, mais garder la motivation, je pense.
Travailler.
C'est juste difficile.
Il y a une forme qui est bien mieux disante socialement. Voilà. Il y a une forme que je favoriserai.
Alors, c'est cet extrait tiré de ton film Charlotte Pouche, Des bobines et des hommes. On y entend le chef de l'entreprise annoncer à ses employés le redressement judiciaire n'impactera pas leur travail. Mais on voit quand même l'inquiétude dans le regard de cela. Et alors on est un peu déstabilisé aussi parce qu'il me semble que c'est la troisième séquence de ton film. Et donc pour les auditeurs, je le dis, la première séquence, on est avec un employé qui remet en ordre une pièce de l'usine pour, je le cite, être raccord. Donc tu nous introduis le film avec ça, on plonge dans ton film avec cette séquence. Et la séquence d'après, c'est celle d'un tournage de film de fiction qui s'appelle La fille du patron, où un ouvrier vient de se blesser avec une machine, le patron en a ras-le-bol et il dit à ses employés qu'il va vendre. Voilà. Et donc voilà, tu poses les bases comme ça de ton documentaire, donc entre fiction et documentaire.
C'est l'entrée du film,
C'est l'entrée du film, voilà, exactement. Donc vas-y, raconte-nous.
En fait, là, ce que vous venez d'entendre, ce sont des sons que j'ai enregistrés et des images que j'ai tournées. mais il y a une réunion qui précède celle-ci, c'est pas moi qui l'ai filmée et c'est pas moi qui l'ai enregistrée. C'est-à-dire que des bobines et des hommes entrent, on entre dans l'usine où nous, spectateurs et spectatrices, nous sommes témoins d'un film de fiction, c'est-à-dire que l'usine Belmaille devient le décor de l'usine de textile de La fille du patron, qui est un film de fiction. Et si vous voulez, les premières images sont celles de la réunion qu'on retrouve hein, dans le début du film. Une réunion semblable à celle que vous venez d'entendre, où le patron est dans le hall de l'usine, entouré des salariés, et il annonce, disons, on est vers la fin de la mise en sauvegarde. Ça va pas bien se passer. Les sons et les images qui existent ont été pris par Christelle Fournier, qui était la chef opératrice de La fille du patron, et Olivier Lousteau, qui est le réalisateur de La fille du patron. Ils terminaient un repérage, ils étaient à quelques jours de commencer La fille du patron, et ils ont été témoins de cette réunion. Je veux dire que ce moment de important dans l'histoire de l'usine Belmaille, ils l'ont filmé, mais ça a été aussi un miroir, puisque dans le scénario de La fille du patron, cette scène était sensiblement écrite déjà. Alors peut-être pas au mot pour mot, mais dans La fille du patron, l'usine va pas bien, va être vendu. Ce sont des moments, des moments de réunion qui sont importants dans Des bobines et des hommes, parce que vous avez le patron souvent qui est au milieu d'une pièce, entouré des salariés, et disons que ça rythme le film parce que ce sont ses annonces. C'est des annonces qu'on attend. Le film que je fais, c'est je filme certes une mise à mort, ça on le sait à la fin, mais aussi comme une chronique de l'enjeu, c'est est-ce qu'on va mourir ou pas.
Oui, c'est tout.
On est en train de survivre. Est-ce que la mort est proche ou pas.
On voit tout le processus.
Oui. Oui. Et puis ça tient justement, aux lèvres du patron. Et comment dire, c'est dans la parole du patron. La vie ou la mort, parce que justement, cette chronique, le fait qu'il y ait régulièrement ces réunions, on attend avec impatience ce qu'il va nous annoncer. Donc ça montre à quel point c'est un peu aussi entre ses mains, quoi.
Oui, c'est totalement entre ses mains. Et justement, au montage, j'ai à peu près 12 à 14 heures de rush hein, du patron, où ce sont à chaque fois des entretiens dans son bureau en face à face. Et au montage, mon choix de montage a été de... J'ai voulu, si vous voulez, traduire la manière dont moi je l'ai senti, ce Stéphane Ziegler. On parle du film d'Emmanuel, où Emmanuel n'a pas pu entrer dans l'usine. Moi, j'ai pu entrer dans l'usine, qui est une différence notable entre nos deux films. Et cette entrée dans l'usine, comment elle s'est faite? Elle s'est faite naturellement, par le tournage de fiction. Où Rouge International était producteur.
Et sur lequel tu intervenais ou pas?
Pardon,
tu faisais partie de ce tournage de
pas
fiction?
Pas du tout.
D'accord. Voilà.
Je ne faisais pas partie du making-of. Je ne faisais pas partie du tournage de La fille du patron. J'en ai fait partie parce que l'histoire de Belmaille a appelé le cinéma documentaire. Mais au début, je n'en faisais pas partie. Moi, je suis arrivée, le film était déjà en cours. Et c'est vrai que ce patron, j'ai donc découvert... de la même manière que j'ai découvert les ouvriers, les salariés, un savoir-faire. Je les ai découverts au fur et à mesure, par ma présence qui était de mai 2014 à novembre 2014.
Et lui, t'as accepté sur
lui
le terrain.
Lui m'a accepté parce que il était persuadé, évidemment, par... cette pérennité du savoir-faire dans son ancrage local.
Phrase qu'il répète sans arrêt.
Il en était persuadé. Il était persuadé que son entreprise, il allait pouvoir la sauver par un énième montage financier qui ferait pour que l'usine Belmaille continue.
Ah oui, donc toi, tu penses qu'il est sincère? Ça, c'est une question qu'on s'est toutes posée, nous ici. Il y avait une forme de sincérité dans le... Oui, voilà,
non.
C'est ce qu'il a... Non.
Je pense qu'il était persuadé que son prochain montage, peut-être en juillet, août, ça allait se faire. Donc, persuadé d'une magouille, si vous voulez. Mais Moi, j'ai le temps de découvrir le personnage. J'ai voulu le traduire dans des bobines. J'aurais pu le mettre beaucoup plus, monsieur Stéphane Ziegler.
Oui.
Beaucoup
oui.
plus, il aurait pu être beaucoup plus présent, disons. Mmh. Mais j'aurais fait un patron, enfin, une caricature.
Je trouve énorme. Que oui, c'est ça. Il est déjà assez caricatural oui. finalement.
Oui, mais enfin moi à la fois, je suis pas totalement d'accord. Moi, je trouve que quand on rentre dans le film, on n'a pas, on se dit pas tout de suite, c'est un patron voyou. Personnellement.
Non. Oui, oui, c'est ce que je disais.
Par
oui,
contre, il répète toujours la même phrase. C'est bon, je voulais la noter là. Oui, oui. Il le dit là. À chaque fois qu'il commence, qu'il parle, il répète la même phrase. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant dans le film justement, c'est que plus le film avance. Plus on commence à voir finalement la face cachée de ce patron qui finalement fait des promesses et on sent que ça ne va pas aboutir.
La langue de bois, quoi.
Et ce que je trouve aussi fort dans le film, contrairement au mien, parce que moi, effectivement, il n'y a pas cette dramaturgie, mais bon, parce que c'est très différent, c'est qu'il y a quand même cette dramaturgie de cette avancée jusqu'à où on va aller et comment ça va se terminer. Donc, c'est ça que je trouve fort dans le film. Mais au départ, on se dit, bon, il essaye de faire au mieux.
Ben, c'est ce que j'ai vécu, moi.
Oui, oui, c'est ça.
Si vous voulez, j'ai pas... Et puis, au fur et à mesure de ma présence dans l'entreprise, eh bien, j'ai eu des réserves. Des réserves. Et puis, à un moment donné, je me suis même demandé si j'allais rester dans l'entreprise. S'il allait continuer à m'accepter.
Oui, bah oui.
Parce que la tension, il y avait une tension qui se ressentait de plus en plus, quoi.
Et tu es toute seule sur le tournage avec ta caméra?
Alors, je suis toute seule sur toute la partie de... dans l'usine Belmaille.
Ouais.
Et ensuite, la séquence de fin dans le cinéma, cinéma L'Espace Renoir à Rouen, qui est un cinéma d'art et d'essai, eh bien, j'ai écrit cette séquence. Donc, j'ai travaillé avec Raphaël Vandenbusch et Elton Rabino, à l'image et au son. Sinon, toute la partie usine, j'ai enregistré et filmé toute seule.
On D'accord. peut poser peut-être la même question à Emmanuel oui. sur l'équipe technique, de qui elle était constituée pour ton film?
Alors, on était... donc, j'avais un chef opérateur, Gorgui Lazarevski, mais qui n'a pas fait tout le film parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Voilà. Et après, c'est moi qui filme. Donc, en fait, c'est mélangé. Voilà. Les images entre Gorgui et les miennes sont mélangées. Et au son, j'ai eu Philippe Bouchès, qui nous a quittés d'ailleurs aujourd'hui, qui est un ingénieur du son, et Baptiste Chauchat, ingénieur du son, qui est venu me donner un coup de main. Et j'ai aussi fait le son. Voilà. Donc tout se tricote un peu comme on peut.
Ouais. Hein. Ah bah justement, sur le son, on avait envie de te poser. On voulait en savoir plus parce qu'on a trouvé que le son. Était peut-être fabriqué avec plusieurs éléments. Comment tu as travaillé sur le son? On a l'impression d'entendre un peu, on peut interpréter le son comme des bruits d'usine, quelquefois à des moments donnés dans ton film.
En fait, effectivement, avec Gorgui, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est moi qui faisais le son quand on a fait les sons d'usine, c'est-à-dire que les gens font les 3-8, hein, donc on a été beaucoup la nuit aussi. Et en fait, cette usine, elle crache, quoi. Elle crache, quand on passe devant, c'est impressionnant. Il y a ce son qu'on entend, là.
Ouais.
Tout le temps.
Donc, elle crache de la vapeur d'eau.
Elle crache de la vapeur d'eau. Ouais. Et la nuit, c'est encore plus impressionnant, parce que c'est la nuit, que c'est calme autour, et que du coup, on l'entend encore plus.
Ouais.
Et en fait, qu'on soit chez Marie, une des personnages, là, l'ukrainienne, qu'on soit chez Chéref... qu'on soit chez Mario, le portugais, on entend l'usine.
D'accord.
En fait, à Vézine. Puisqu'ils habitent tous à Vézine, dans le quartier D'accord. ouvrier. Hein. Ouais. Il y a le bourg, Chalette, et il y a le quartier ouvrier, Vézine, avec l'usine. Donc, en fait, finalement, elle est omniprésente. Okay. Cette usine est omniprésente, au son, en tout cas. Il y a des fois, on ne la voit pas, et encore, on la voit aussi beaucoup chez pas mal de personnes. Donc, effectivement, des fois, j'ai voulu montrer cette omniprésence, mais je l'ai juste un petit peu... plus marqué, mais on l'entend déjà dans un son direct.
Ouais. Tu l'as un peu souligné, mixage, etc.
Voilà, parce que c'est vraiment caractéristique, d'un bruit d'usine. Hein. C'est pas la seule usine qui crache comme ça. Hein.
Bien
Il y
sûr.
En a beaucoup, hein. Mais c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, le film. À un moment, il y a une scène de nuit et là, on l'entend vraiment très très bien dans le film. Ouais, ça crache. Et du coup, c'est même un c'est inquiétant, quoi. Il y a quelque chose.
C'est omniprésent.
Oui, c'est comme une grosse machine, c'est comme quelque chose qui va broyer finalement ces ouvriers, il y a quelque chose comme ça.
D'un peu monstrueux, quoi.
Oui, puis il y a tout le temps ce son. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là.
Oh, Charlotte, tu veux nous dire quelque chose
Sur le son, moi, ça a été ma principale difficulté étant seule, arrivant dans une usine où il y avait quand même un parc de plus de 60 machines. Malheureusement, il n'y en avait que 10-12 qui tournaient, et puis le son s'éteint, le son de l'usine, au fur et à mesure que je filme. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en post-production avec Sandy Notariani, qui était j'ai eu un monteur son pendant 4 semaines, où j'ai aussi hérité des sons de la fille du patron. Donc il y a eu une mise en scène aussi après, un petit peu de un travail au son qui était nécessaire. Et puis la musique aussi de Paul Prié qui accompagne aussi des moments d'attente, qui accompagne une sortie d'usine, une sortie du film,
qui rend cette scène de fin où tu fais ces portraits un peu dramatiques. Hein. Moi, j'ai failli verser ma petite larme quand même quand tu les filmes.
Dernière fois, c'est un au revoir parce que on parle des ouvriers, mais le personnage principal, c'est cette grande dame, ces grandes dames qui sont les machines et qui tournent sur elles-mêmes jusqu'à les ouvriers ne voulaient pas, les salariés ne voulaient pas y toucher en fait. Ça aurait pu être un moyen de pression, comme on voit parfois dans des cas de mise à mort d'entreprises où on casse, c'était inimaginable en fait.
Et on va le comprendre après, juste après une petite pause musicale justement qui va reprendre ces ambiances sonores, et tu nous expliqueras ça après, Charlotte.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4 sur la FM et c'est l'émission mensuelle de l'association Ad Hoc. On a déjà traité le sujet. Avec nous dans le studio, les réalisatrices Emmanuelle Bidou et Charlotte Pouche pour leurs films respectifs Les Hutchins et Hutchinson, décidément sorti en 2015, et Des Bobines et des Hommes, sorti en 2017. Alors on vient d'entendre un extrait de la bande originale composée par Ennio Morricone du film d'Elio Petri, La classe ouvrière va au paradis. Un film italien sorti en 71 et qui obtint l'année suivante la Palme d'Or au Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais il met en scène Gian Maria Volonté,
dans le rôle de Lulu Massa, un ouvrier qui est acharné au travail et qui est victime d'un accident de travail. Il s'aperçoit à ce moment-là de la solidarité des autres ouvriers qui se mettent en grève pour interpeller sur les mesures de sécurité, et il s'engage dans la lutte syndicale et se met lui aussi en grève. Et donc ce film raconte la condition ouvrière propre à cette époque, où l'on voit d'une part la dureté de la vie ouvrière et d'autre part l'engagement dans la lutte syndicale. Donc à propos justement de luttes ouvrières et d'organisations syndicales... Oui, dis-moi.
Vous parlez d'un film, d'une référence cinématographique.
Oui, oui.
Moi j'avais quand même un livre de chevet et un film de chevet.
Oui.
La condition ouvrière de Simone Veil.
Oui.
Et Ce vieux rêve qui bouge d'Alain Guiraudy. Donc j'avais une Julie Gaillet qui m'avait offert La condition ouvrière de Simone Veil, et Nadia Turintsev, notre productrice, qui m'avait conseillé de regarder Ce vieux rêve qui bouge d'Alain Guiraudy. Et je tiens à le citer parce que ce sont aussi parfois des repères qu'on a quand on se retrouve un petit peu plongé et parfois seul dans une histoire qu'on tient et qu'on tient pendant longtemps, parce que faire un film, c'est la question du temps aussi. Donc voilà, c'est pas dire une référence pour dire une référence, mais c'est
et
vraiment...
Ça a été important pour ton tournage.
Il y a d'autres œuvres qui nous entourent et qui aussi...
qui t'ont inspiré.
Qui inspirent et qui construisent aussi.
Oui, ça me fait beaucoup penser ce que tu viens de dire, Charlotte, au début du film d'Emmanuel Bidou, donc dans les Hutchinson. Emmanuel, enfin, tu vas nous en dire plus, mais tu lis une citation d'Engels. Donc peut-être que tu peux nous dire quel est le rôle finalement de cette citation, de cette référence.
En fait, quand j'étais jeune, j'ai lu un livre d'Engels. Bon, après, je suis issue quand même d'un père communiste, donc j'étais un peu élevée, on va dire, dans cette tradition, hein, même si quand même j'ai pu me faire ma propre pensée à partir de 14-15 ans. Mais j'ai lu un livre qui s'appelle « Situation de la classe ouvrière en Angleterre », un livre d'Engels de 1845, à mon avis, qui est un livre primordial, que tout le monde devrait lire, puisqu'en fait, c'est toute l'histoire, effectivement, du début de la révolution industrielle en Angleterre, et c'est tout le monde, toute l'histoire du monde ouvrier, comment ça a commencé, comment on est passé de la paysannerie, en fait, au monde ouvrier. Et bon, après, j'ai des références un peu plus... là, c'est un pavé, c'est pas un roman, hein, voilà, mais c'est assez passionnant. Et c'est vrai que dans ce livre, il y a cette phrase... Alors, je ne pourrais pas la redire comme ça.
Est-ce qu'on l'a écrite quelque part ?
C'est un village qui devient ville, oui. Etc., etc. Et c'est exactement ça, Hutchinson. Parce que nous, on commence notre révolution industrielle en 1830, à peu près. L'Angleterre a déjà commencé en 1780. Mmh. Et c'est pour ça qu'Hiram Hutchinson s'installe en France. Parce qu'il sait qu'en Angleterre, c'est trop tard. Enfin, c'est déjà enclenché, qu'il ne pourra pas faire... voilà. Il sait qu'en France, il y a un créneau,
oui.
En fait, pour aller ouvrir une grosse usine de caoutchouc. Mmh. Hein, en plus, il pleut, il dit. En France, il pleut beaucoup. Et donc, voilà. Et donc, Engels, quand Hiram arrive, même si ce n'est pas vraiment le film, parce qu'en fait, le film n'est pas historique dans ce sens-là, quand il arrive à Chalette-sur-Loing en 1853, c'est un village. C'est-à-dire, il y a une petite centaine d'habitants qui sont tous paysans, en fait. Et entre 1853 et le début de la Première Guerre mondiale, il y a à peu près, c'est pas encore énorme, mais il y a à peu près 300 à 400, 500 personnes qui vont commencer. Ils font déjà venir des gens d'ailleurs. Mmh. Ils font venir aussi des Américains, parce que en fait, ça vient d'Amérique latine, le caoutchouc, etc. Mais à partir en fait à partir de la révolution bolchévique, parce qu'en fait, c'est les Russes blancs les premiers arrivés. Qui ont fui la révolution bolchévique et avec les Ukrainiens et les Kalmounts. Les gradés, d'ailleurs, sont arrivés, ils ont été faire taxi à Paris et, en fait, les simples soldats sont restés. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une immigration massive et c'est devenu vraiment une ville. C'est-à-dire qu'on est passé de 100 habitants à 12 000 aujourd'hui, 13 000.
Oui, oui.
Et donc, cette phrase, c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'à partir du moment... Voilà, c'est un peu... C'est pas non plus... extraordinaire, on va dire, dans ce que ça dit, mais ça dit bien ce que comment un petit village peut devenir une grande ville. Et après, effectivement, j'ai rajouté la phrase sur l'ouvrier, parce que c'est aussi
dans Engels, dans le livre d'Engels, le début de la lutte, hein, quand même, déjà au moment de la révolution industrielle. Hein, les, je ne sais pas si vous aviez vu l'histoire des ouvriers là, de Stan Neumann, la série sur Arte, hein, qui raconte très très bien, en fait, en 4 épisodes, justement, toute cette histoire. Oui. C'est que ça commence déjà à lutter, ça commence déjà à remettre en cause les conditions de travail. Oui. Et Engels, qui est évidemment voilà, avec Marx, c'est le début du marxisme, etc., dit que pour lui, les ouvriers les plus sympathiques, c'est ceux qui commencent à ouvrir leur gueule. On va dire ça comme ça.
Alors, voilà. Justement,
qui fait partie. Oui, 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 on va faire une belle transition là, mais effectivement, parce qu'à la base de l'identité de l'ouvrier, c'est le vol de son outil de travail. C'est ce que montre bien, en fait, la série documentaire qui est passée sur Arte, qui est super. Mmh. Donc, on comprend ça. Enfin, moi, c'est ça qui m'a marqué. J'ai essayé de me raccrocher à cette image-là, c'est-à-dire que le tisserand lui vole son outil de travail pour en faire quelque chose d'énorme,
C'est ça.
Qui grandit, quoi. Quelque chose de monstrueux, une usine énorme qui, finalement, voilà, qui déshumanise et qui... qui fait en sorte que c'est carrément obligatoire de se battre pour ses conditions de travail.
Mais parce ce que... livre d'Engels, Situation de la classe ouvrière en Angleterre, il est important, à mon avis, en général, dans l'histoire. C'est qu'en fait, on comprend énormément de choses en lisant ce livre, de ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui.
Complètement.
Voilà, donc,
Ben justement, Emmanuel, on va écouter un autre extrait de ton film, Les Hutchinson. Alors, à l'image, on voit, ce sont deux hommes qui ont peut-être un peu plus, une soixantaine d'années peut-être. On comprend que ce sont deux syndicalistes. Et puis, ben justement, c'est intéressant de les écouter. Ils te racontent leur expérience de syndicaliste et de lutte ouvrière. On va écouter donc ce deuxième extrait, puis on va en parler après.
Jusqu'en 1970, c'est pas tellement loin, l'usine manquait d'ouvriers et d'ouvrières. C'était, il n'y avait pas de chômage, on manquait d'eau. Et donc, dans les événements internationaux, lorsque des habitants ne trouvaient plus de moyens de vivre sur leur territoire et cherchaient à aller travailler ailleurs, et ils émigraient en Europe ou hors de l'Europe. Et nous, ici, on recevait beaucoup de gens qui, soit pour les crises politiques, comme par exemple les Russes qui arrivaient là, ils étaient pour une part des Russes blancs chassés par la Révolution. Les Polonais venaient ici parce que c'était la famine chez eux. Les Espagnols arrivaient parce que Franco chassait les républicains, etc. Les Italiens pour telle et telle raison. C'est-à-dire, voilà, venant du monde entier, des gens arrivaient travailler ici parce qu'il y avait du travail. C'était ça l'explication. On les appelait, même en dernier temps, les Turcs, l'usine envoyait en Turquie des cars avec des sergents recruteurs qui ramenaient des ouvriers ici. Les gens vivaient bien ensemble et se rencontraient. Alors, bien sûr, ils tentaient de se concentrer pour vivre parce qu'ils avaient des points communs dans leur vie de tous les jours. Mais ils se retrouvaient pendant les luttes ouvrières pour défendre leur gagne-pain, pour défendre leurs conditions de travail. Ça, c'était superbe. Là, on voyait qu'il n'y avait pas de différence. Le racisme à cette époque-là n'existe pas.
On vient d'écouter donc un extrait du film d'Emmanuel Bidou. Donc oui, c'est intéressant d'écouter la parole de ces anciens syndicalistes. Ce sont des anciens, ils le sont toujours.
C'est drôle, vous avez coupé. Marine Le Pen n'existait pas non plus.
est-ce que syndicaliste, on est ancien? Parce qu'on n'est pas syndicaliste toute sa vie.
Je crois qu'on est quand même. On peut être syndicaliste toute sa vie.
Oui,
alors là, c'est Monsieur Jean-Louis, effectivement, et Émile Chalopin, qui sont effectivement. Enfin, Monsieur Jean-Louis était un grand syndicaliste CGT. Hein, il est rentré dans l'usine en 55 et s'est fait virer en 69.
parce qu'il a beaucoup trop ouvert sa gueule, on va dire.
C'est étonnant, parce qu'en général, on est protégé quand on est syndicaliste.
Oui, mais lui, ça a été plus compliqué, parce que... Oui, on est protégé, enfin, c'est pas si simple. La protection des syndicalistes. Et donc, M. Jean-Louis, après, est devenu maire de Chalette en 30 ans, quand même. Voilà. Donc, il a continué.
C'est bien figure.
Voilà. Maire communiste, hein, qui est la dernière ville communiste de Loiret, d'ailleurs, qui est toujours communiste aujourd'hui, hein, Chalette-sur-Loing. Et donc, effectivement, M. Jean-Louis était extrêmement impliqué dans les mouvements de grève avec Émile. Émile aussi travaillait à l'usine. Ils ont. Je pense que là, quand j'ai fait le film, oui, ils ont bien 70 ans, hein, quand même, facile, je dirais. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ce film, j'ai été voir M. Jean-Louis, parce qu'en fait, on m'en parlait beaucoup. On me disait, ah, va voir M. Jean-Louis, c'est lui qui a un petit peu toute la mémoire, en fait, de cette histoire. C'est lui qui même connaît bien les communautés, puisqu'il a été maire pendant 30 ans. Donc, pendant 30 ans, il a reçu les communautés. Et donc, c'est quand même une usine qui a une histoire, un historique de mouvements sociaux très important. Voilà, c'est bon, il y a beaucoup d'usines qui ont fait des mouvements sociaux. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, il y a eu une grève encore là, en 2020, hein, parce que c'est très difficile de faire une grève dans une usine, mais il y a encore eu une grève pour des suppressions d'emplois. Ils ont arrêté, sur 83 salariés, il y en a 82 qui ont arrêté le travail. Donc, M. Jean-Louis, il détient toute cette histoire, hein, parce qu'il raconte que quand il était dans l'usine, quand il y avait, voilà, il décidait de faire grève, tout le monde s'arrêtait. Tout le monde. À l'époque. Et ça, je parle, c'est les années 60. Hein. Après, ça a quand même changé. Et donc, et il a aussi toutes ses mémoires de toutes ses communautés, puisque c'est 30 ans de mairie. Et là, il raconte un bout d'histoire. Alors, c'est un peu historique. Je dirais que je trouve que ce n'est pas les moments les plus personnellement sensibles du film. C'est-à-dire que là, on est dans une description.
Oui, mais on comprend aussi l'histoire.
Oui. De l'histoire, de ces communautés qui sont arrivées, etc. Mais ce n'est pas, pour moi, c'est plus sensible quand c'est Marie qui parle, ou quand c'est Chéref, ou quand c'est Marmoute, ou quand c'est. Voilà. Ou les Ukrainiens, etc. Voilà. Donc, M. Jean-Louis, aujourd'hui, donc, lui, l'usine a quand même pas mal changé. Il y a toujours presque 2000 ouvriers quand même, mais ils sont que 600 sur le terrain. Voilà, parce qu'il y a premier collège et deuxième collège dans une usine.
Oui.
Voilà. Donc en fait, finalement, sur le terrain, ils sont beaucoup moins nombreux que dans les bureaux, que dans l'administration, etc. Et aujourd'hui, j'ai eu Marmoute au téléphone, qui fait partie du film, qui est donc syndicaliste, lui, à l'UNSA. Lui, il dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus réunir les syndicats. Enfin, ça devient très, très compliqué. C'est le syndicat des cadres qui est majoritaire. Donc, ça devient extrêmement difficile de faire grève. Que, bon, voilà. En plus, bon, Total fait un chiffre d'affaires de 4 milliards quand même par an avec une Shinson. Et donc, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup d'intérimaires. Les intérimaires, évidemment, sont sous une pression.
Et
d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a peu de jeunes qui parlent dans mon film. Parce qu'à l'époque, quand j'ai tourné, les jeunes ne voulaient pas parler parce qu'ils étaient intérimaires et ils avaient peur qu'on ne leur renouvelle pas, en fait.
Bien sûr. En étant précaires, ils ne peuvent pas s'investir dans le syndicalisme.
Voilà. Donc, en fait, cette usine est toujours une usine où il y a eu une grève l'année dernière, mais ils n'ont rien obtenu. Hein. Il y a une délocalisation au Portugal, voilà, des flexibles qui partent donc au Portugal. Donc, il y a 200 postes qui vont être supprimés en décembre, etc. etc. Donc, les choses ne changent... L'usine est toujours là, quand même. J'en suis presque étonnée de voir que l'usine est toujours là. Mais on ne peut plus faire grève. La réunion des syndicats, c'est très difficile. C'est compliqué, quoi.
Dans ton film, Charlotte, il y a aussi une lutte syndicale, puisqu'ils sont là pendant les réunions. Mais elle est perceptible, elle est présente, mais on sent qu'ils s'affaiblissent et qu'ils perdent courage. Alors comment ça s'est passé, toi ? Est-ce qu'il y a des séquences que tu n'as pas mises ? Il y a Driss quand même qui nous parle, qui nous dit des choses assez fortes sur sa compréhension. À un moment, il nous explique, il est syndicaliste, et il nous explique que... Ben, il comprend que parfois, on en arrive à la violence, quand même. Mais tout ça avec beaucoup de douceur.
C'est pas une lutte qui s'affaiblit, parce que depuis l'arrivée de Stéphane Ziegler, donc ça fait à peu près... Je filme en 2014, il arrive en 2009. Donc, ils ont quand même 5 ans de lutte, en fait. Allez, 4 ans. Au bout de la première année, ils se sont rendus compte que le montage financier de Stéphane Ziegler ne leur permettait pas d'avoir la transparence sur les comptes. Donc, c'est une lutte qui a... Moi, je filme une partie de la lutte et la fin d'une lutte. La question qu'on peut se poser, c'est justement ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est on a l'impression qu'ils s'affaiblissent. Non. Parce qu'on a l'habitude de voir une lutte par des images que portent peut-être Qui sont représentés dans l'espace médiatique avec du feu, du pneu et des feux, du feu, pardon.
On envoie du feu à la fin.
On envoie à la fin. Mais c'est une lutte qui est aussi invisible. C'est celle-ci que je rends visible, en fait. La lutte, à un moment donné, c'est un peu David contre Goliath.
Oui.
Enfin, totalement. Quand vous êtes face à un tribunal de commerce qui bouge pas. Un patron qui est seul dans le bateau, hein, puisqu'il il arrive en 2019, il licencie la moitié du personnel en 4 ans, dont le directeur financier, les personnels à la maintenance. Les salariés, les tricoteurs de Belmaille sont pas fous. Ils savent très bien que le directeur financier, avec la famille Bell, c'était lui qui faisait que la boîte était debout. Et puis la maintenance, si on licencie des personnels à la maintenance, les machines... celles qui sont en mauvaise santé, on ne peut plus les réparer. Donc, ils ont eu pas mal d'indices, disons.
D'accord.
Leur combat, c'est jusqu'au bout, en fait. Jusqu'au bout, jusque dans des bobines. Le bout, c'est de brûler les bobines. C'est le dernier acte dans leur lutte. Le combat, il est permanent. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, ce que j'ai aussi découvert... dans ce monde, disons, industriel, où ils ne travaillent pas, ils ne sont pas à la chaîne.
Non.
Ce sont des... Certains sont presque ingénieurs, ils n'ont pas le titre, mais ils ont une...
Ils ont un savoir-faire.
Un savoir-faire qui fait partie de l'exception française. Hein,
oui.
Disons que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que s'asseoir au pied de sa machine, c'est peut-être lutter ? C'est pas voir, et certains, quand ils ont vu le film fini, on dit bah, on nous montre, on nous voit apathique, mais c'est ce que j'ai filmé. Enfin, c'est moi,
les ouvriers ont fait ces retours.
Certains, apathique. Et moi,
certaines scènes, ils sont quand même, je crois, ils sont enfin. Soit comme sidérés par les décisions qui sont prises et on les voit dans leur
oui,
regard.
Mais
dans
être
les
assis
décisions.
À côté de sa machine, est-ce que c'est pas non plus protéger son travail ? Dans l'espoir infime que le repreneur, cette histoire de repreneur tunisien, va peut-être fonctionner. Et peut-être que ça, on n'a peut-être pas aussi... parce que lutter, il y a un rapport de force qu'on entend et qu'on voit par des cris, par des slogans, par des images qui nous transpercent d'une autre manière. Hein. Eh bien oui, peut-être là, c'était garder les petits cartons manque cône, et puis après, prendre le carton où étaient les bobines, et puis écrire et inventer des slogans. Aller vers un jeu, dans le verbe.
Ouais. Mais justement, à Hutchinson, il y a quelque chose qui se rejoint, c'est qu'il y a un savoir-faire énorme. C'est la maison mère, hein, quand même, à Chalette-sur-Loing. C'est-à-dire que quand même, il y a une centaine d'usines dans le monde. C'est le premier mondial de caoutchouc. Et donc, il y a ce savoir-faire... qui est détenu par les ouvriers depuis des générations, puisqu'il y a encore les Ukrainiens, des enfants d'Ukrainiens qui sont arrivés donc en 1917, qui travaillent toujours à l'usine.
C'est et la donc, même chose chez Belmag, il y a des familles.
Oui, c'est des familles. En fait,
la famille Antunes, ils sont d'origine portugaise. Driss, il y avait son frère qui travaillait. Et tout à l'heure, on parlait de syndicats, les étiquettes syndicales, elles tombent à un moment donné. Et c'est ça qui fait aussi leur force. Leur force et leur dignité, c'est que comment ils font groupe. Comment le collectif se crée ? C'est parce que les rancœurs de la CFDT, de la CGT des années précédentes, moi, je ne les vois pas. Je
ne
les vois pas.
Menées
par Nadine qui excelle aussi dans sa communication souterraine, d'envoyer des mails, de gérer l'administrateur judiciaire, le liquidateur judiciaire, d'une exigence de ne pas faire de faute d'orthographe, d'écrire en minuscules. Bon, ça, vous ne le voyez pas dans le film, mais cette force-là, elle se distille par... pas par un silence, ils sont pas silencieux, ils sont pas apathiques et abattus, hein. Ils restent droits, justement. Droits parce qu'ils connaissent leur métier et ils se rendent bien compte que l'histoire belle, celle qu'ils ont construite avec Stéphane Ziegler, d'ailleurs, dans ton film, Emmanuel, il parle avec l'ancien patron, il y avait de l'amitié. Il savait de quoi il parlait, en fait. Régler une machine, le patron, il savait comment la régler. Alors, ça pose une autre question sur la question du paternalisme des patrons d'une autre époque. Mais il y avait un rapport de considérer l'autre, de considérer le travail, de considérer une famille et de considérer une vie. Une vie dans le travail. Et moi, ce qui m'a... Ce que j'ai vu, ce que j'ai saisi, c'est de à quel point l'autre, l'homme, n'est rien, en fait. Dans ton film, Emmanuel, ils le disent, les salariés. On est des numéros. Les belles mailles me disent, à un moment donné, on était tricoteurs, on est passé opérateur sur machine. Tout ça aussi, c'est peut-être aussi le point commun à nos deux films. La différence, c'est que il y a un salarié qui dit, quand j'ai vu ces machines, elles m'ont fait peur. Chez Belle Maille, on travaille pas à la chaîne. La machine, il y a un amour fou, quoi. Il y a quelque chose de... Elle effraie pas. Elle effraie pas, je pense, autant. On voit pas.
Non, on les voit pas, mais il avait 18 ans, chez Ref, quand il est arrivé, enfin, quand il a commencé. Donc, à 18 ans, on peut s'imaginer. Oui, c'est des énormes machines. Elles sont énormes, effectivement. Donc, quand on a 18 ans, au début, ça peut peut-être faire peur, effectivement. Mais ce savoir-faire, je pense, est une des raisons aussi qui fait qu'aujourd'hui, l'usine est encore là. Parce qu'à un moment, ils ont voulu délocaliser. Je crois que c'était en Pologne, et ça a été un carnage. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivaient pas à refaire les pièces aussi bien qu'on les faisait à Chalette-sur-Loing.
Mais c'était le cas de Ben Mag aussi, hein, c'est le tissu technique. Il tricotait pour qui ? Pour la SNCF, pour l'armée de terre, pour DIM, pour
les caleçons.
Les caleçons DIM. Donc, c'était leur savoir-faire aussi de pointe qui leur a permis de résister et d'être pérenne, justement. Après, ça a été la volonté d'un homme qui a détruit leur outil de travail. Belmaille pourrait peut-être tourner encore.
C'est ça, hein, c'est ça qu'on comprend dans ton film.
Donc, moi, je découvre aussi, alors, au-delà d'un savoir-faire, un montage financier qui s'appelle LBO, Leverage Buyout. Qui est issu d'un modèle anglo-saxon où Stéphane Ziegler est totalement dans sa...
Dans son bon droit.
Dans son droit de quand il rachète l'entreprise. Oui. Après, la suite, non, il n'y est plus, mais c'est un système qui existe. Moi, je l'ignore. Donc, ça a été aussi, oui, la volonté d'un homme de faire en sorte que les dividendes reviennent à une personne et de tuer une boîte, quoi.
Mais ce qui paraît quand même incroyable aussi dans ton film, c'est que donc, tu dis que Stéphane Ziegler arrive en 2009, toi tu arrives sur le tournage en 2014.
Oui, ça va très vite.
Oui, mais il se passe quand même 6 ans où 5 ans où les salariés en fait, voient, comme tu dis, toutes ces incohérences se dérouler sur leurs yeux, le fait qu'ils ne donnent pas les bilans de comptables, etc.
Mais avec leur syndicat,
et qu'ils sont impuissants.
Bien sûr, c'est l'impuissance.
Et quelle. C'est vraiment terrible, quoi.
Oui,
c'est...
ils le disent, ils ont contacté l'inspection.
Mais c'est le cas de
travail.
Beaucoup de Français dans des entreprises.
Mais ça paraît incroyable. C'est pour ça que je veux dire.
La force de la hiérarchie, le nombre de Français, je pense, vous faites. Vous recevez des témoignages, vous récoltez des témoignages de Français au travail, je crois qu'on est dans. C'est un dénominateur commun.
Oui.
Juste pour finir, pour le savoir-faire, est-ce qu'il y a beaucoup changé dans l'usine, justement, est-ce que dit certains personnages du film, dont un Portugais qui est au café, etc., c'est qu'en fait, aujourd'hui, avant, effectivement, c'était des femmes, c'était plus paternaliste, mais c'était aussi, avant, les patrons, ou je veux dire, les gens qui travaillaient avec le patron connaissaient le travail. C'est-à-dire que souvent, c'est des gens qui avaient déjà été au travail, qui avaient été sur des chaînes et qui étaient devenus patrons, etc., et qui étaient après passés dans les bureaux. Aujourd'hui, les gens qui arrivent à Hutchinson, et ça fait un moment, je dis aujourd'hui, mais je dirais 20, 30 ans au moins, c'est des gens qui arrivent de Paris, en petit costard, qui n'ont jamais vu une machine, qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis, et qui ne savent même absolument pas comment se fait un pneu de vélo. Ou tout. Donc en fait, ils se retrouvent confrontés à des gens, mais enfin ça c'est un peu dans... Je dirais que c'est pas qu'à l'usine, malheureusement, parce que même dans la culture, on a ça aujourd'hui. Ils se retrouvent confrontés, ils sont face à des gens qui n'ont absolument pas le même langage. Ils ne comprennent pas ce que les ouvriers leur disent. Quand l'ouvrier dit « il faut cette machine-là la réparer à tel endroit parce que ça marche pas pour le mélange du caoutchouc », le mec les regarde, il ne comprend pas. Donc il y a aussi ce décalage, en fait, qui s'est passé entre le patronat et les ouvriers. On va plus voir son patron, on va plus faire toc-toc à la porte si on a un problème. C'est fini, ça. Il faut appeler,
etc. Puis après, ça remonte au siège à Paris. Alors qu'avant, effectivement. Et pour l'amitié, mais ça, je crois que c'est bon, après, dans toutes les usines.
Il y a quand même des belles histoires. Hein. Les Fralib, c'est une belle histoire.
Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. Heureusement. Aussi, je parle des grosses usines, en fait. Qui sont
mais Unilever, c'était quand même. Une grosse usine.
Bien sûr.
Non, mais je dis ça juste pour faire exister le fait que.
Je parle du Chinson particulièrement. Évidemment, il y a effectivement, heureusement, des belles histoires, des usines qui sont mises en scope, etc., etc. Mais ça a quand même changé beaucoup le paysage, en fait, de l'usine. Et puis, pour finir, par rapport à l'amitié, mais je crois que ça, c'est un peu général, c'est qu'effectivement, avant, il y avait une vraie amitié, on pouvait même boire un coup, hein, ils le disent, et on s'arrêtait, on avait le temps d'aller pisser, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Ouais. On peut plus se parler. On peut même pas se parler entre collègues. On peut pas prendre de pause quand on a envie. Le coup de rouge, alors n'en parlons plus. Donc effectivement, ça a beaucoup changé, mais ça fait longtemps. Je dirais que ça fait au moins depuis 30 ans, ça. Ouais.
C'est-à-dire que l'organisation du
depuis
30
ans, et même dans le livre de Simone Veil, La condition ouvrière, où on est vraiment dans les années 30, moins, années 40, ça existe déjà. Puisqu'elle chronique, elle écrit à la lettre ce que le travail, avec précision, de ses collègues. Les contraintes au travail, la pénibilité au travail, déjà ça existe depuis des années. Mais si je peux me permettre, on a un autre point commun, Emmanuel, dans le film, c'est que tu filmes une usine de l'extérieur d'un fabricant de caoutchouc, et Stéphane Ziegler est recruté, lui, à la fin, par un caoutchoutier, le Chameau. Donc il est recruté pour aller délocaliser l'usine au Maroc. Oui,
c'est ce que tu dis.
Donc ça peut être aussi le point commun qu'on peut noter entre nos deux films.
Alors qu'il est interdit de gestion pendant 15 ans par le tribunal. Ah, c'est après ça.
Il a le temps d'aller.
Il a le temps de démonter quand même.
En tout cas, il est nommé dans cette entreprise pour la restructurer, c'est ce que j'imagine. Et puis, ça, c'est pendant la procédure. Que la justice, c'est pas rapide. Donc pendant ce temps-là, il a le temps d'être à la tête d'une autre histoire dramatique.
Oui.
Et donc nous y sommes allés avec les salariés de Belmaille au Chameau.
Ah.
Sur le site du Chameau.
Alors.
Nous y sommes allés.
Est-ce que tu prépares un nouveau film?
Non, mais nous sommes allés pendant l'occupation de l'usine.
D'accord.
Voilà. D'accord. En 2014.
D'accord.
Vous le voyez pas dans le film, mais on a fait Roanne, Lorne. Pour aller lui rendre visite et rendre visite aux salariés du Chameau qui, eux, étaient en train de perdre leur travail.
Et en voyant ça, le patron a continué de t'accorder des entretiens et te laisser rentrer dans l'usine. Alors que
il était parti, là.
Là, à ce moment-là, il était parti. 2014, il est parti. D'accord. En tout cas, ce qu'on peut voir dans les deux films, c'est quand même des ouvriers qui aiment leur travail. C'est des employés qui sont fiers de ce qu'ils font, qui sont heureux d'être là, même si la situation est très difficile.
Je pense que dans le film d'Emmanuel, moi, je vois moins de. C'est quand même dur. Hein. Franchement, c'est 30 ans. Je vois plus chez toi, dans ton film, les hommes et les femmes que moi j'ai vus dans ton film. Ils sont abîmés, quoi. Le travail tue et ils le portent.
Oui, c'est dur, en fait. C'est dur, c'est juste comme dit à un moment Chéref. Je crois qu'on va avoir l'extrait, il me semble. Oui. Mais,
si je peux me permettre,
on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, comme dit Chéref. Hein. Voilà, on nous a appelés, on est venus, on a travaillé. Et il a une sorte comme ça de... Voilà, il dit on n'a pas le choix. Ouais. Mais oui, c'est dur parce qu'effectivement, c'est quand même du travail à la chaîne. C'est les 3-8 aussi, hein.
Et ils boivent un coup pour tenir.
Je crois qu'ils boivent presque plus pour tenir. Ils vont au café après.
Mais certains disaient à une époque où c'était la bouteille de vin rouge.
À l'époque, c'est les Ukrainiens, c'est quand Marie arrive. Hein, c'est l'époque, c'est les années 40, 50, 60. Effectivement, ils mettaient un peu d'eau dans une bouteille de rouge et ils se faisaient passer le rouge. Mais parce qu'on est quand même dans une... Oui, c'est dur parce que c'est du travail à la chaîne.
Il y a un père qui dit à son fils « travaille ». Parce que
sinon tu vas à l'usine. Ah mais fais des études plutôt.
Oui, fais des études.
Ouais. Plutôt. Ouais. Il dit fais des études, sinon tu finiras à l'usine. Ouais. Mais c'est dur parce que effectivement il y a les 3-8 quand même, donc les gens travaillent de nuit.
C'est pareil chez Belmaille, mais c'est un autre type de travail. C'est une autre fabrication.
Mais ça se sent, il y a quelque chose de plus délicat dans le fil que dans le caoutchouc.
Parce que une usine de textile, elle doit être propre. Mais propre à 100%. C'est-à-dire que même les salariés de Belmaille ont inventé un système d'aspiration pour faire en sorte que le tricotage se fasse sans petit moulon. D'accord. Donc l'usine, elle est hyper propre.
Oui, puis il y a une différence, c'est que là, on travaille pas mal à la main, et surtout, il y a énormément de la benzine, les solvants qui sont mis dans le caoutchouc pour faire les pneus, parce que ça a très bien marché cette année, Hutchinson, puisqu'ils font les pneus de vélo. Alors là, ça s'est enflammé, là. Tout le monde a acheté des vélos pendant le confinement. Mais il y a énormément de maladies professionnelles. On n'en parle pas beaucoup dans le film, parce que c'est quelque chose dont ils ont très peu parlé, parce que ça fait des années que les syndicats sont sur le coup de ces maladies professionnelles qu'ils n'arrivent pas à faire reconnaître. Mais effectivement, les solvants qu'on met en fait avec le caoutchouc pour faire après un caoutchouc qu'on vulcanise et qu'après, voilà, pour faire le pneu de vélo, et pour les poumons, enfin, c'est dramatique. Il y a eu énormément de gens qui ont eu des cancers. Voilà, donc effectivement, je pense que peut-être que dans ton usine, il n'y a pas, par exemple, ces problèmes-là.
Il y a des problèmes de surdité pour les... par rapport au bruit, mais... On n'est pas dans le même...
C'est pas le même matériau.
On n'est pas dans la même pénibilité.
En tout cas, moi, je trouve quand même que dans les deux films, il y a une dignité et un amour pour le travail. Et on va écouter un extrait de ton film, Charlotte, des bobines et des hommes, qui montre d'où ça vient.
Je conserve tout, puis c'est quand même un sacré souvenir, tout ça, hein. Là, c'était le 1er janvier 89. Là, c'est vraiment le jour où ça a brûlé. C'était l'ancienne usine, c'était Mitoyard avec la maison du patron. On a brûlé le dimanche 1er janvier. Et le lundi 2 janvier, on a commencé à travailler. Jacques Bell a demandé à ceux qui savaient bricoler, travailler, qui voulaient travailler. Il y avait tout à faire. En dehors des heures de travail, de venir travailler ici. Donc on faisait 12, 14, 15 heures par jour. Ce qu'ils voulaient.
Vous étiez rémunéré aussi ?
Ah, bien sûr. Bien sûr. Hein. Donc on a fait ça avec Philippe Adamzik. On a fait toute la peinture, on a fait les plâtres ici. Avec Alain Sandra, on a fait toute l'électricité. Ça, c'est quand on a emménagé ici, la première phase. Là, c'est Tonio. C'est le papa de Tonio qui a fait toutes les tôles qu'il y a dessus. C'est tout lui qui les a fait. Ça, c'est la deuxième phase.
L'agrandissement.
2 ans plus tard, on avait doublé les machines et doublé la superficie. Et là, c'est Richard Champier. Chacun faisait rentrer des amis proches ou de la famille. Et chacun, il mettait la main à la pâte, là c'est moi. Et voilà, et Belmaï grandissait tout le temps. On était tout le temps en train de pousser les murs.
Alors on vient d'écouter un extrait de ton film, Charlotte.
Et on vient d'entendre José Antunes, qui est un des doyens de l'entreprise.
Oui, alors voilà, raconte-nous dans cette séquence, il y a cet employé qui montre des photos et qui raconte l'histoire d'un incendie et la manière dont ils ont reconstruit tous ensemble cette usine. Et je disais juste avant que ça expliquait évidemment pourquoi ils étaient tant attachés à ça. Ils étaient tous là pour reconstruire l'usine, pour pousser les murs, et Belmaï grandissait. C'est une histoire familiale. On parle
d'une maison familiale, en fait. C'est un endroit où les salariés passent plus de temps dans leur maison de travail que leur maison intime, disons, quoique il y a de l'intime dans la maison de travail. Et ce moment que vous venez d'entendre, c'est moi je l'ai filmé très vite, au tout début, peut-être c'était les 10 premiers jours, je l'ai cette séquence. Elle me permet de connaître, de saisir l'importance, l'amour pour... cette usine, l'amour du travail, à quel point ils se sont investis, puisque les murs, c'est eux qui les ont dressés, le toit, c'est eux qui l'ont posé,
l'électricité,
c'est eux qui ont, disons, aménagé leur espace de vie avec le patron. Donc vous comprenez toute la symbolique de Belmaï et tout le rapport de l'homme au travail, en tout cas de ces hommes que j'ai rencontrés, tout l'amour pour José, parfois on l'entend un peu, sa voix qui part, parce qu'il retient ses larmes. Il retient ses larmes, l'usine elle a brûlé, mais le lendemain, oui, ils étaient en train de la reconstruire en fait. Et puis moi aussi, ça me conforte dans un choix du dispositif. J'aurais pu aller chez eux. J'aurais pu aller, comme dans ton film, Emmanuel, on t'avait pas trop le choix, parce que... Mais j'aurais pu aller raconter autre chose d'eux à l'extérieur de l'entreprise. Et là, je me suis dit, en fait, mon espace de travail, moi, dans
c'est le leur. Hein.
Et de toute façon, ben, y avait aussi un enjeu qui se situait ici, chez Belmaille, à Rouen, dans cette usine-là, et sur le parking, à la rigueur, oui. Mais au tribunal, et c'était l'usine.
Mais pour comprendre. Mais le lieu, c'est l'usine.
Le lieu, c'est l'usine. Enfin, on est
non, mais en même temps, j'ai écrit au jour le jour. Donc là, je vous traduis ce que moi, je me posais comme question.
Donc tu n'as pas de rush où tu allais filmer à l'extérieur, ou tu as quand même un moment.
Non.
Donc il y avait quand même ce parti pris.
Voilà, donc c'est aussi faire des choix, et des choix où le temps, là, il était compté, parce que leur jour était compté. Donc moi, il fallait aussi que mes choix de réalisation, ils soient assez rapides. Disons, je ne pouvais pas me permettre de m'éparpiller un coup chez eux. Donc il a fallu que ce cadre-là, cette unité-là de temps, de lieu, même si j'avais quand même une histoire devant moi, mais j'avais à tirer aussi les bonnes ficelles de cette histoire. Et donc ce moment qu'on vient d'entendre, il est pour moi aussi primordial pour tout ce que je viens de dire, hein, sur... ma position aussi dans l'usine, qu'est-ce que je vais y faire, qui sont ces hommes, et puis il fallait aussi en même temps écrire un dossier, parce que la manière dont le film a été produit, eh bien il fallait à un moment donné aussi aller chercher de l'argent dans l'histoire du film.
Tu as commencé à tourner sans avoir d'aide au CNC ou aide à l'écriture, ou t'étais
non, j'ai eu la production, ouais. Rouge International, ouais. J'ai eu des aides après, j'ai eu l'avance sur cette après-réalisation. Après le vieux, enfin voilà.
Et tu n'habitais pas Rouen à ce moment-là, donc tu faisais des allers-retours.
Enfin, j'étais.
Qu'est-ce que tu as fait ? T'as planté ta tente sur le parking ?
Non, j'étais dans un petit hôtel en face de la gare.
Ah oui.
Avec une production qui m'a permis aussi d'être dans ce petit hôtel en face de la gare. Mmh. Et de rester. En tout, j'ai eu en présence presque 90 jours de présence. À Rouen, hein.
À Rouen.
Bon, un petit sang, ouais. Et puis après...
C'est une super condition de tournage. Peut-être que tu veux rebondir, Emmanuel, parce que...
Oui, j'ai pas du tout les mêmes conditions de tournage. Enfin, j'aurais bien aimé, mais... Ouais. Oui, après, il y a des... Bon, c'est difficile, hein, de faire un film, on sait aujourd'hui. C'est vrai que... Mais j'ai essayé de retourner les choses. C'est-à-dire que, comme j'ai pas eu la possibilité de rentrer dans l'usine... Et que moi, j'avais une espèce de fantasme, j'avoue, hein, de voir ces machines, justement, de voir comment on travaille ce caoutchouc. Bon, je me suis dit, on va pas laisser tomber. Je vais aller autour de l'usine et essayer de faire imaginer, en fait, aux spectateurs, avec les familles qui racontent, ce qui peut s'y passer. Alors, je pense que c'est pas complètement réussi, mais c'est vrai que le fait de ne pas aussi rentrer raconte quelque chose, en fait.
Ben oui.
Puisqu'en fait, ça raconte que c'est persona grata, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y rentrer, il y a quelque chose qui est caché.
Il y a un secret.
Oui, alors je ne sais pas si c'est un secret, mais en tout cas, c'est beaucoup plus... C'est compliqué de rentrer à Hutchinson, et d'ailleurs, apparemment, ça fait longtemps que c'est compliqué de rentrer à Hutchinson. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun film dans cette usine. Aucun. Personne n'a jamais fait un film. Il y a des films promotionnels pour Hutchinson, mais il n'y a pas de film documentaire ou même de fiction, en fait. Donc, on ne peut pas rentrer. Donc, j'ai essayé de retourner la chose, me dire comment je fais. Donc, je vais rencontrer les gens autour de cette usine qui reste quand même, je l'espère, dans le film, on la voit. Elle est souvent là, elle est présente, puisque les gens rentrent, font les 3-8, qu'on entend les sons, que les gens en parlent. Mais c'est vrai que, voilà, moi, j'ai pas du tout eu les mêmes conditions parce que nous, on a... Moi, j'ai fait un long repérage toute seule pendant assez longtemps, et je regrettais, même si je pense qu'il ne faut pas le conseiller à tout le monde, mais de ne pas avoir pris ma caméra dès le début, en fait. Parce que, en fait, à la base, mon film était vraiment sur une sorte d'utopie, de raconter, en fait, comment ce chalet de Surloin, qui n'est pas grand, est une ville-monde. Voilà. Comment c'est un peu un laboratoire de notre avenir, comment en fait... oui, c'est ça, une espèce d'utopie du vivre ensemble. Donc j'avais envie de raconter ça. Donc je me suis dit, je vais tourner autour de l'usine, puisqu'il y a toutes ces communautés. Je vais essayer d'en prendre deux. Au début, j'étais partie sur deux communautés, parce qu'il y en a tellement, hein, ils sont 30, 35 communautés. Donc je me suis dit, je vais en prendre deux ou trois. J'ai commencé avec les Ukrainiens, parce que c'est les premiers arrivés. Enfin...
les Kalmouks sont arrivés avant les Mongols, mais en tout cas les Ukrainiens sont arrivés donc en 18 en fait, voilà, donc il y a longtemps. Après je me suis dit je vais travailler avec les Portugais, parce que les Portugais sont là depuis aussi un long moment, les années 50, 40, 50, 60, et sont restés, parce que les Italiens et Espagnols sont beaucoup repartis, et les Turcs qui sont les derniers arrivés, qu'on a été chercher par car. En fait, enfin souvent, on a été les chercher en Turquie. Hein. C'est comme ça que sont arrivés pas mal de Turcs, voilà. Et donc cette ville-monde, cette espèce d'utopie, voilà, de un peu un laboratoire de notre avenir, c'est-à-dire comment en fait une ville peut fonctionner avec cette usine, avec toutes ces communautés, se vivre ensemble. C'est ça que j'avais envie de raconter. Et comme j'ai eu peu de jours de tournage,
12, tu nous disais,
15 en fait,
15, si d'accord,
je me rappelle bien,
15.
Les choses ne se passent pas au moment où vous êtes là. Mmh. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'était les antagonismes, les contradictions, les conflits qu'il pouvait y avoir. C'est-à-dire d'essayer aussi de détricoter cette espèce d'image de ville-monde ou de vivre ensemble absolument génial et tout. Parce qu'il y a forcément des problèmes, il y a des soucis, il y a du chômage aujourd'hui. Même elles se replient un peu, les communautés, hein, etc., etc. Voilà. Donc je n'ai pas pu, j'ai l'impression... saisir complètement ce que j'avais envie de raconter avec ces discussions entre différentes communautés ou différentes personnes pour dire que finalement, aujourd'hui, même si ça reste une ville-monde, parce qu'il y a encore énormément de communautés et de choses faites pour, puisque le maire continue, c'est plus compliqué que ça.
Voilà. Mmh. C'est vrai que la question du rapport producteur-réalisateur, dans le dispositif, et d'ailleurs c'est un peu... chose qu'on peut poser, pourquoi 15 jours ?
Bah, on n'a pas
parce que faire un film documentaire en 15 jours, qu'est-ce que ça raconte en fait ?
Non mais je suis d'accord, c'est bien pour ça que pour moi j'ai une sorte de frustration, hein, parce que moi j'y ai passé du temps avant. Donc j'avais le sentiment que voilà, j'avais ma matière, et j'ai rencontré beaucoup de monde. Mais on n'a pas eu beaucoup de sous, on a eu France 3 Régions, mais qui permet de débloquer du CNC, mais qui donne 8000 euros. On va pas, hein. Et après on a eu Cyclique, qui est l'aide à la production, voilà, en développement. C'est tout.
Et c'est pour ça que moi je sais que Des bobines et des hommes a été produit de cette manière-là. Peut-être que mon prochain film sera produit de cette manière-là, je ne le sais pas. En tout cas, je fais en sorte d'être productrice de mon temps, c'est-à-dire de faire un peu l'écureuil, de mettre un petit peu d'argent de côté, parce que quand on s'engage sur un projet, si on n'a pas de réserve, un projet documentaire, hein, si on n'a pas de réserve, bah, on s'endette.
On fait autre chose.
Ouais. Voilà. Bah, donc ça fait partie aussi du. Enfin, c'est important. Souvent, bah oui, non, quel a été ton dispositif. Mais peut-être comme parler de l'origine du projet, c'est le début déjà de comment l'a envisagé en fait. Ce comment-là, c'est la question à laquelle on doit répondre dans une note d'intention. Pourquoi et comment. Comment, il est primordial. Hein. Mais d'ailleurs, ça se sent, Emmanuel, que tu as eu du repérage. Parce que en 15 jours, tu n'aurais pas eu la complicité
de toutes ces communautés.
Au bar,
qui te laissent rentrer chez eux.
Quelque chose de
chez eux.
Marie aussi.
Marie,
on sent une vraie complicité entre vous.
Oui, Marie qui est un personnage vraiment extraordinaire. Je crois que vous n'avez pas pris d'extrait.
Ouais.
Mais c'est quand même... qui a une histoire incroyable et qui a travaillé il y a longtemps et qui avait une vision, elle, de l'usine très dure. Pour elle, c'était le bagne, justement.
Elle est très présente. Et on voit sa fracture qui est aussi omniprésente. Mais elle a une présence de... Elle est hyper émouvante, Marie. C'est Marie, hein.
Ouais, l'Ukrainienne.
Et d'ailleurs, ses traits, parfois, elle a des traits du passé qui la rattrapent. Elle a deux visages, Marie.
C'est vrai. Ouais, sa mère a travaillé là-bas. Sa mère, voilà, une histoire très dure. Enfin bon, c'est aussi ces femmes qui arrivaient seules, en fait, en France, pour travailler et qui se sont retrouvées dans des fermes. Donc je passerai les détails des femmes qui étaient au service du fermier, hein, donc sa femme mère, et donc c'était des histoires qui sont terribles. Alors après, avec Marie, on n'est pas rentré complètement dans tous les détails, parce que en fait, ce qui était très compliqué, c'est qu'il y a énormément de communautés, beaucoup de richesses, très vaste, c'est très riche. Comment en un film, c'est un peu ce que tu racontes, tu restes dans l'usine et tu as bien raison de rester dans l'usine et ne pas aller chez les gens, je trouve, pour ton film. Enfin, je pense que voilà, c'était le lieu, puis c'est le lieu de la dramaturgie aussi.
Bien sûr.
Hein, ton film est une dramaturgie jusqu'au bout, justement, parce que c'est ce que ça raconte, voilà, la fin. Mais moi, c'était mon gros problème. Je ne vais pas aller voir les Italiens, les Espagnols, les Arméniens, les Kalmouks, parce que sinon, on ne s'en sort plus. Et encore, déjà, il y en a 3 communautés, ce qui est déjà beaucoup, à mon avis. Voilà. Donc, comment... les choix ont été compliqués. Et en 15 jours de tournage, j'ai
pas réussi à saisir totalement, pour moi, ces antagonismes, ces conflits qu'on peut voilà, avoir entre différentes personnes de communautés, qui est liée aussi au chômage, aux problèmes du travail et aux problèmes d'aujourd'hui. Quoi.
Mais ce que tu dis, moi, le temps que j'ai eu sur 6 mois, j'ai eu le temps de rester avec Nadine, de choisir Driss, de choisir Nadine, bon, de rester avec Stéphane Ziegler parce que c'était la voix qui, je la sentais de plus en plus précieuse. Parce que je passais le plus clair de mon temps dans l'atelier. Et puis ensuite, des personnages, disons, je dirais un peu plus secondaires, enfin, je le formule comme ça, mais ce temps-là m'a permis de choisir. Et ces choix-là, on dit le mot choix, mais ce sont des intuitions, ce sont aussi... comment on est, enfin Nadine,
la relation
qui
avec
elle est toujours sur le ton de la confidence avec elle toi parce qu'elle te parle comme ça, oui. Elle est là et elle te raconte aussi,
elle chuchote,
mais donc elle te confie des choses. C'est,
mais c'est pareil, c'est ce chuchotement, c'est le chuchotement du secret de ce qui est en train de se jouer en fait, de ce qui est en train de se jouer. Et Nadine, elle est aussi à l'entrée de l'entreprise. C'est la première...
Oui, rappelle-nous son poste exactement.
Nadine Rogue, elle est secrétaire de Belmaille. Elle a dans sa vie cumulé 97 CDD et 3 CDI. Belmaille, c'est son dernier CDI. Avant-dernier, pardon. Parce que
Nadine... qu'elle est reprise après.
Non, Nadine, ensuite, elle a été AVS. Elle s'occupait d'un petit garçon autiste. Pendant 4 ans, elle est à la retraite aujourd'hui. Et Nadine, c'est aussi... quelqu'un qui a du recul sur son propre métier avec de l'humour, elle aime lire, comment je me rends compte aussi, moi je vois pour la première fois de ma vie, j'ai 33 ans 32 à l'époque, comment faire pour faire semblant de travailler, lire c'était s'échapper, comment faire pour pas plonger, pour pas glisser vers
le bore out, le
burn out. On dit burn out, ouais, mais détresse hein, psychologique.
Oui, les ouvriers. Aussi un burn out d'ennui aussi.
Oui, les ouvriers désœuvrés. Hein.
Donc, tout ça, Nadine, tous ces secrets-là, elle me les donne en chuchotant et en me disant tu filmes pas. Hein. Je suis. À 30 cm d'elle. Donc oui, là, je filme. Mais...
Je peux vous dire juste, c'est que moi, j'ai eu une autre grosse difficulté. Ben, évidemment, ça ne se voit pas dans le film. Oui. Quand le spectateur va le voir, il ne connaît pas cette difficulté. Donc, évidemment, il s'en fout, c'est normal. Mais c'est que beaucoup de gens ont refusé de parler. C'est-à-dire que, en fait, j'ai passé énormément de temps parce que les gens avaient peur, en fait, de me parler. Les gens travaillent à l'usine, ils ne voulaient pas me parler. Ils avaient peur de se faire licencier par Hutchinson. Et je d'ailleurs, au bout d'un moment, je me suis dit, mais comment je vais faire? C'est-à-dire que, est-ce que c'est ça que je travaille? Justement, cette peur de la parole, cette peur de dire les choses, hein, de parler du patron, de parler du travail, etc. Donc les gens avaient vraiment peur. Les jeunes me disaient, ah non, c'est pas possible, si je te parle, je suis virée, parce que je suis en intérim. Donc c'est ça qui a été aussi très compliqué. Et d'ailleurs, à un moment, il y a un extrait très rapide avec un Français, là, qui dit, aujourd'hui, on peut plus faire grève, tu sais pourquoi, parce que c'est le syndicat, c'est les cadres, et là. Lui, il partait à la retraite, c'est pour ça qu'il a accepté de me parler.
Oui, il s'est senti un peu libre dans sa parole.
Et il le dit, d'ailleurs, je me ferais bien une dernière petite grève avant de partir. Mais c'est pour dire qu'en fait, ça a été... Quand même, au début, il y avait une sorte de vendetta, enfin, il y avait une sorte comme ça de secret, de silence. Et il a fallu du temps, voilà, pour percer un peu ça.
Alors que moi, ils m'ont parlé assez vite.
Ah oui.
Et de toute façon, je savais que j'accédais à la vérité par leur voix. Il y avait une vérité liée à du juridique. Nadine avait les rapports. Une vérité par le geste. De voir les hommes travailler et à un moment donné leur geste s'arrêter parce qu'il manquait du fil.
Oui.
Parce que la machine, elle tournait pas. Et pourquoi elle tournait pas? Parce que. Donc c'était par. Tous ces. C'est par la voix des salariés que j'accédais à la vérité. Et je savais que c'est eux qui ont fait que. Enfin, en même temps, ils ont nourri mon fil, mais. Et vice versa, cette vérité-là, elle se construisait...
Ils se sont confiés à toi sans problème. Ils t'ont tout de suite prise comme une confidente.
Alors moi, ils se sont confiés à moi sans problème. Oui. C'est d'être à l'image qui était un problème.
Oui.
C'est, voilà, c'était ça le plus le problème. Mais je pense qu'on est quand même sur deux usines très différentes. C'est-à-dire que là, on a Total derrière quand même, qui est un mastodonte, hein, aujourd'hui quand même. Hein, et que les gens sont à leur poste et que donc ils ont peur de le perdre. Et là, on est déjà dans une lutte dans ton film quand même, qui est là déjà depuis un moment. Et je pense qu'à ce moment-là, les gens, ils ont ce besoin peut-être de te parler parce qu'ils sont dans ce moment de lutte aussi d'essayer de sauver quelque chose. Je ne sais pas, hein, peut-être qu'il y a aussi ça de différent, quoi.
Oui, à un moment donné, c'est 4 ans de silence qui s'officialise, enfin par ou se matérialise,
oui, c'est ça,
par ce projet qu'on a en commun, oui, en fait.
Il y a un besoin.
Il y a 4 ans de silence, jusqu'à 35 ans d'expérience de boîte. Enfin, c'est il y a quelque chose de viscéral. Oui.
D'ailleurs, à propos donc, de cette lutte, là, je voulais juste lancer un extrait. C'est l'extrait 6. Donc, c'est une séquence, en fait, j'ai pas mis l'insulte, mais c'est la séquence qui suit justement cette réunion où Stéphane Ziegler apprend qu'il est démis de ses fonctions et donc qu'il quitte le navire.
Par l'administrateur judiciaire,
voilà,
qui devient patron.
On va entendre cet extrait maintenant.
Il y a personne qui imaginait qu'il aurait quitté le navire au dernier moment, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on n'aurait pas pensé, quoi. D'ailleurs, personne, hein, le tribunal, ils sont tous sur le cul, quoi. Je sais pas, hein. On n'est pas bien virulent, quoi. Ça serait dans d'autres entreprises, il y a longtemps que ça aurait flambé, quoi. Et je peux comprendre que certains en arrivent à séquestrer des directeurs, parce que quand t'as affaire à des gens comme ça, je peux comprendre qu'ils en arrivent à ce niveau, tu vois, à cet extrême, je te jure, hein. C'est quand t'as en face de toi quelqu'un qui a ni morale, ni rien, tu vois, arrive à un moment, tu pousses les gens à bout, et ben ça finit par des situations pareilles, quoi. T'arrives à un certain point, ben, tu peux plus retenir les gens. Quand t'as affaire à un mec pareil qui répond pas à tes questions, à tes inquiétudes, qui se barre en plus, il te laisse livrer à toi-même, ben, tu peux comprendre que des gens ils pètent un câble, quoi. Il va falloir tout recommencer à zéro, quoi.
Alors Charlotte, donc on vient d'entendre un extrait, c'est Driss, donc un syndicaliste et qui est ouvrier chez Belmaille, qui vient de parler et qui voilà, qui est, je crois, qui est très calme, mais malgré tout il est en train d'annoncer une situation, il ne comprend pas ce qui se passe, le directeur Stéphane Ziegler quitte le navire et il le dit très calmement, mais qui comprend pourquoi certains ouvriers parfois voilà, ont des accès de violence puisque la situation est aussi violente pour eux et ils ont cette, tout au long de ton film, ils ont ce calme alors qu'ils voient la situation se dégrader et alors je sais pas comment, s'il y a des scènes que tu n'as pas mises ou si c'était vraiment leur attitude, leur combat d'être aussi tranquille face à ce délitement de la situation.
Ça a été leur combat, comme on le dit depuis enfin, voilà le début, hein, de protéger leur outil de travail, de garder un niveau de langage, disons, qui raconte aussi leur combat où eux maîtrisent leur situation, maîtrisent aussi leurs droits. Et c'est l'histoire qui aurait pu se passer, oui, que Stéphane Ziegler soit séquestré. C'est aussi Driss qui... sans que par le départ de Stéphane Ziegler, ça annonce la fin de Belmaille, en tout cas une fin préméditée. Et en même temps, il a aussi, il regarde comment eux se sont comportés en fait.
Oui. Oui, oui, oui.
Donc il y a cet effet-là qui
En tout cas, qui voilà. Enfin, moi, je trouve qu'il reste quand même très, très, tout à fait serein. Et je ne sais pas si toi, Emmanuel, tu as senti chez ces ouvriers qui étaient quand même fatigués, qui étaient peut-être une, je ne sais pas, de l'antagonisme ou des envies de dire quelque chose un peu fort. C'est ce qu'on aurait envie, mais j'ai pas eu l'impression. Ou c'est des choses que tu n'as pas mises dans ton film.
Quand même, il y a un extrait qu'on n'a pas passé qui me semblait fondamental, malheureusement, parce que en fait, qui parle justement du travail.
Est-ce que tu veux nous le raconter alors?
Oui. Enfin bon, c'est un extrait où Chéref, Gulnaz et Emre, qui sont une famille, donc le mari, la femme et le fils, travaillent tous les trois à l'usine. Donc là, ça fait combien de temps que tu travailles à l'usine?
28, depuis ben, l'âge de 18 ans. Mon père avait travaillé, moi j'ai travaillé, regarde mon fils travaille. La plupart des gens qui habitent ici, c'est ça. C'est le père ou fils. Non, c'est le relais, bien sûr.
Et je demande le petit, t'es grand, après t'es grand, tu veux faire quoi? Il dit, bah, je t'insonne. C'est normal, c'est ton père, il travaille, sa mère, elle travaille.
Bon, c'est dommage que c'est vrai qu'on ne fait pas un métier quand même.
Vous travaillez tous les trois à l'usine.
Ouais, c'est ça. C'est
nous deux,
tous les trois.
Pneumatiques, mon père à la préparation. Et on, de temps en temps, on se croise avec ma mère, c'est tout.
Je commence à 22h jusqu'à 6h matin. Ça va?
Oui.
Si tu dors bien les journées, tu travailles tranquillement, tranquille.
En fait, ma mère elle ramène les pneus et moi je les mouille. Et après, le mouleur, il les moule. En fait, il les fait cuire.
Quoi. On va le calmaliser. Ouais,
il les fait cuire.
Moi, je fais les mélanges. Voilà.
Il envoie à moi, moi j'envoie à
ma mère, elle les ramène cru. Moi, je les mouille avec. Du promol.
Vulcanis.
Et voilà, après le mouleur, bah, il est fait cuire, quoi.
Après magasin.
Ouais, magasin après.
Ah, mais qu'est-ce qui est cher, magasin.
Et donc, ton père, il a commencé dans quel atelier?
Mon père, il a commencé depuis la préparation. Il a commencé la préparation.
Il est grand chose, hein. Combien d'années, il a travaillé grand combien d'années? 30 ans.
Oh, c'est rien, c'est 30 ans. 30
ouais,
ans,
c'est dur là-bas. Hein. C'est
oui,
pas
mais
pareil,
qu'est-ce,
autres,
que,
hein.
Qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai dit, écoutez, vous n'êtes pas fils de milliardaire, millionnaire, vous êtes obligé de travailler, donc il faut travailler. Sinon, on ne peut pas sortir autrement. C'est impossible. Ah, donc, tu ne tiens pas en force, si tu es capable de faire d'autres choses, bah, tu n'as qu'à faire autre chose. Pourquoi on est attaché alors? Donc c'est une usine, c'est vrai, bon c'est chiant. Travailler à la chaîne, c'est vrai que c'est pas sûr, c'est que ça. C'est... La chaîne c'est dur.
Quand on était petit, on passait à côté de l'usine, il me disait, t'as vu, je disais ah ça pue et tout, il me disait bah oui, t'as vu, il faut que tu étudies et tout. Si tu veux pas travailler, tu dis non je vais étudier en fait. J'ai fini là. Ça m'a pas servi de leçon.
Là, moi l'année que j'ai rentré là-bas, mais, franchement il m'a fait peur. J'avais 18 ans quand j'ai revu les machines qui c'était. Je me suis caché derrière mon père. Ah, franchement, c'est la première fois que je voyais des machines aussi grandes que ça. Ah ouais. Ça faisait peur les machines. Ça n'a pas changé, en fait. C'est toujours les mêmes machines, mais on fait plus attention. Plus attention.
C'est ça la vie.
Ah,
hein.
Les ferrailles, ça bousille, regarde. Même les machines changent au fur et à mesure. Pourquoi il n'est plus rentable. Il est usé. Ah, donc un humain, comment tu veux que ça reste toujours pareil? Bah tu sais pareil. Bah tu sais pareil. La santé, on a poussé quand même la santé. On a poussé. Nous on est des étrangers à la base, on est des étrangers. On accepte, et voilà, on a rêvé, c'était comme ça. Les politiques, c'est mal fait quand même. Certaines choses, c'est mal fait. Hein. Est-ce que l'Europe elle est ouverte? C'est à cause de ça? C'est devenu trop facile. On est devenu en fin de compte aujourd'hui, quoi. On est un numéro en fin de compte. Je regarde mon immatricule, en fin de compte, on est un numéro. Tu ne sais même pas que si on existe. Non. Des fois, à 5h du matin, on se prend la tête avec un collègue de travail. Ouais, dépêche-toi, on va être en retard. Pourquoi t'as pas ramené ça? Pourquoi? L'actionnaire est en train de dormir, nous on se prend la tête pour les actionnaires.
Oui, non, je pense qu'ils étaient quand même très contents de me parler, effectivement. Je ne sais pas si c'était pas une catharsis. Hein. De me parler n'était pas une espèce de... Je parle à une réalisatrice. Mais c'était surtout la fierté de raconter le travail, en fait. Voilà, de raconter ce qu'ils font et en famille.
Vous pouvez peut-être nous dire où on peut trouver vos films, comme ça, si ça donnait envie aux auditeurs, aux auditrices de regarder vos films.
Moi, on peut les trouver sur le site de la production. Alors, c'est www.alterego, donc A-L-T-E-R-E-G-O, -6production au pluriel.com. Et là, on tombe sur la production donc, d'Alter Ego, hein, de Cécile Lestrade, ma productrice, qui a d'ailleurs d'autres très beaux films. Et on peut louer le film pour 2 euros. Et l'acheter pour 6,99. Hein. C'est pas comme ça que les auteurs vont vivre, mais bon, s'il est vu, c'est déjà chouette.
Ok, c'est noté.
Et on peut trouver des bobines et des hommes en VOD. Et puis sur Tank, peut-être, je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Pardon, c'est un peu approximatif. Et puis sinon, eh bien en VOD.
Ok. Super. Bon, je pense que je vais donner la parole à Anne Galland pour qu'elle nous fasse un petit débriefing de l'agenda.
89.4. Vous êtes dans l'émission d'Adoc. On a déjà traité le sujet, mais en fait, ce que vous venez d'entendre, c'est une rediffusion d'une émission qu'on avait menée en septembre 2021. Mais quand Samia me cède la parole pour l'agenda, aujourd'hui, en ce mois de mai 2024, je vais poursuivre avec l'agenda de ce mois de mai 2024. Le prochain samedi d'Adoc, c'est le 25 mai, comme toujours à 11h au cinéma Luminor, avec le film « À ma place » de Jeanne Dressen, avec un débat animé par Niki Velisaropoulou à la suite de cette projection. Le dispositif d'Adoc, un docu près de chez vous, lancé en 2023, avec lequel nous proposons des rencontres citoyennes autour de projections de films documentaires réalisés par des cinéastes membres d'Adoc, dans toute l'Île-de-France, sur les lieux de vie d'un public souvent à l'écart des propositions culturelles. Pour en savoir plus et découvrir les 20 films du catalogue, vous pouvez aller sur le site adoc.net. Et le 24 mai à 20h, nous avons une projection d'un film d'Anne de Galzin qui avait participé à notre émission il y a longtemps avec ce film-là, C'est pas fini, l'histoire du pétrole de schiste. Et cette projection aura lieu à la tribu à Ris-Orangis dans l'Essonne, donc le 24 mai. Vous dire aussi que la cinémathèque du documentaire programme du 19 avril au 4 juillet au Centre Pompidou à Paris un cycle qui s'appelle Contre-champ, lutte collective, film féministe, une programmation qui prend comme point de départ le fonds de film du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, créé par Carole Roussopoulos, Delphine Seyrig et Johanna Vider en 1982. Le 43e festival Jean Rouche a lieu en ce moment, a commencé le 2 mai et dure jusqu'au 24 mai au musée du Quai Branly. Voir autrement le monde, par le regard intime de cinéastes, le choix d'un dispositif original, d'une narration singulière, la beauté d'un plan, la sensibilité d'une voix, la puissance d'un son, se dévoilent les forces et les résistances face à l'adversité, aux maux et aux souffrances individuelles, familiales ou collectives, d'ici et d'ailleurs. 30 documentaires à voir, révélateurs des crises écologiques, sociales, humaines, culturelles, d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi porteurs d'espoir, c'est là leur force, leur beauté, leur rareté. Je termine cet agenda sur ce beau festival et nous allons céder l'antenne à Michel pour son mélange. Nous vous donnons rendez-vous le premier dimanche de juin, le 2 juin, pour une prochaine émission de « On a déjà traité le sujet ». Vous pouvez quand même réécouter cette émission et toutes les précédentes sur notre site adoc.net. Bon mois de mai à toutes et à tous.
Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 sur la FM.
Et le mélange commence à 17h02. Michel Polizzi avec vous jusqu'à 18h30. Et il y aura de la fumée dans le poste à ce moment-là. On commence avec Richard Pinas. Et Kawabata et Yoshida enregistré au Japon en 2017 pour dire un bon anniversaire à Mr. Pinas.